Le Canada est un chef de file en para-hockey, anciennement connu comme du hockey sur luge. Il a permis au sport de se développer à l'international. Aujourd'hui, il fait face à plusieurs nations émergentes lors de ses compétitions. À 2 semaines du début des Jeux paralympiques, le gardien de l'équipe nationale canadienne de para-hockey, Dominique Larocque, passe l'émission avec nous pour nous entretenir sur l'évolution de son sport au signal. Kevin Breton, très heureux de vous retrouver aujourd'hui au micro en ce vendredi 23 février. Très, très heureux, oui, parce que ça faisait longtemps que je voulais m'entraîner avec l'un des joueurs de l'équipe qui s'envole vers Pyeongchang dans quelques jours pour aller défendre l'honneur du Canada au hockey sur luge, ou plutôt au para-hockey. Et Dominique Larocque, le gardien de but et le vétéran de l'équipe, a répondu à l'appel. Il est au bout du fil en ce moment. Bonjour, Dominique.
Bonjour Kevin.
Très heureux de t'avoir avec nous. Vous êtes en pleine préparation, on est à 2 semaines du début des Paralympiques. Vous vous situez où en ce moment côté entraînement et derniers préparatifs?
On vient juste de sortir d'une mini centralisation à Toronto, en phase finale entre les Jeux paralympiques. Mm-hmm. Il nous reste une petite semaine, là. On va arriver une semaine à l'avance en fait, avant les Jeux de Pyeongchang pour nous adapter au décalage horaire, nourriture, etc. Il nous reste une petite préparation à faire avant. On devrait partir dans les prochains jours.
Okay.
Puis après, ça sera avec les Jeux.
Donc, vous êtes à Toronto en ce moment, toute l'équipe. Vous êtes quoi, une vingtaine de joueurs qui vont représenter le Canada?
Oui, on va être en 17 exactement, parce que c'est le règlement paralympique. Oui, on était à Toronto jusqu'à tout récemment, jusqu'à hier, en fait. Et puis là, on nous reste 4-5 jours de repos à la maison, puis après ça, on décolle pour Pyeongchang.
Est-ce que vous allez avoir la chance de revenir à Montréal ou au Québec voir votre famille avant de décoller, ou c'est directement par Toronto que vous décollez?
C'est directement par Toronto qu'on va décoller.
Les dernières semaines ont été pas mal occupées pour toi puis pour tes coéquipiers. Il y a eu notamment au début du mois de décembre le défi mondial. Vous avez aussi fait une série, en fait, de 2 matchs face aux États-Unis. C'est des matchs d'exhibition. Ça servait à quoi exactement?
C'était pour voir notre niveau. Les Américains, c'est nos grands rivaux, comme au hockey masculin ou féminin. Mm-hmm. Il y a toujours une bonne rivalité. On est proches, alors on a l'habitude de s'affronter. C'était pour mettre, si on peut dire, c'était la table, voir ce qu'on en était rendu avec notre préparation de la dernière année. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas eu la chance de l'affronter beaucoup depuis le championnat l'an passé. Et puis, on a eu une victoire sur 2 matchs, une victoire de 3-0, que ça nous a démontré qu'on était prêts.
Un blanchissage de ta part.
Oui, ça a super bien été le dernier match au Canada. Malheureusement, le match qu'on était à jouer à Buffalo, ça s'est terminé 2-1. Uh-huh. Mais le match était quand même assez serré, alors on est très positif là, pour la suite des événements.
La question que je voulais, puis on pourra revenir aux performances collectives puis de l'équipe ensuite, mais côté performance individuelle, la question que je voulais absolument te poser, c'est que moi, je suis le sport depuis plusieurs années, puis des changements de position, on en voit au baseball des fois. On peut en voir au hockey, des fois, à la limite, un attaquant qui devient défenseur. Mais un attaquant qui devient gardien de but, ça, c'est la première fois que je vois ça. Parce que pour situer nos auditeurs, tu jouais à l'avant lors des derniers Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui t'a motivé à enfiler les pads?
Ah, effectivement, j'ai terminé parmi les 3 meilleurs scoreurs à Sochi en 2014 pour Hockey Canada. Mais suite à notre médaille de bronze à Sochi, un des gardiens de but pour sa retraite. Puis moi, depuis, en fait, que je suis tout petit, j'ai toujours eu un peu comme rêve d'être gardien de but quand j'étais plus jeune à l'école, après l'école, uh-huh. dans la rue ou sur la glace dehors, je m'avais tout en gardien de but. Et puis, quand le gardien a pris sa retraite, j'ai vu comme une opportunité d'essayer. Alors, je me suis entraîné tout l'été suite aux Jeux paralympiques de Sochi. Puis, je suis arrivé au camp de sélection en 2014 après les Jeux comme gardien de but.
Est-ce qu'il y a eu comme...
une surprise.
Oui, il y a un petit peu d'étonnement, j'imagine, de la part des coéquipiers.
Effectivement, il n'y a pas personne qui s'attendait à ça. Il y avait le manager qui était au courant, mais... La chose qui a fait la grosse différence, c'est justement que suite à Sochi, toute l'organisation a changé, qu'aucun staff, aucun coach m'avait vu jouer comme attaquant ou comme gardien de but, mm-hmm. sauf les vétérans qui étaient sur l'équipe. Mm-hmm. Alors, c'était pour moi un peu l'opportunité là, d'essayer, mm-hmm. puis ça a fonctionné.
Est-ce que c'est parce que c'était vu comme une déception, la médaille de bronze en 2014 en Russie?
C'est sûr que déception, oui et non. Team Canada, on s'en va au jeu, on focus sur la médaille d'or, c'est certain. Pour moi, c'était mes premiers Jeux paralympiques, alors ça, en même temps, c'est pas nécessairement une déception. Si on regarde la saison qu'on a eue en 2014, en grande partie, ça a été juste des victoires, des tournois, on les a gagnés. Le championnat du monde en 2013, on l'avait gagné également. Malheureusement, on a perdu un match en demi-finale contre les Américains qu'il fallait malheureusement pas perdre. C'est ça là qu'on a perdu. Alors, on a été obligé de jouer pour la médaille de bronze. Mais c'est ça, les Jeux paralympiques, les championnats du monde, c'est pas un 4 de 7 comme en playoff, c'est un match. Si on est malheureusement pas prêt ou pour X raison, X facteur, on est pas dans notre zone de confort, puis on perd le match, mais ça peut tout chambouler le tournoi, puis ça peut nous mettre dans une position qu'on ne souhaite pas
Désavantage.
nécessairement.
Ouais, parce que aussi, ben, il y a toute la question du partage des poules ou des divisions. Là, on peut faire en sorte que des fois, deux des meilleures équipes sur papier se font face en demi-finale, par exemple.
Exact.
Donc, tu as troqué le numéro 26 pour le numéro 31. Tu as également changé ton équipement. Puis moi, quand j'écoute les matchs de para-hockey, tu sais, quand on est habitué de regarder du hockey, disons, régulier, on remarque que le gardien de but, il est un peu plus, disons, sort un peu plus souvent de son filet. Mais je me dis, au para-hockey, étant donné que l'équipement est différent, est-ce que c'est plus difficile pour vous, en tant que gardien de but, de sortir? Est-ce que tu restes dans ton demi-cercle la majorité du match?
Non, c'est exactement non. Généralement, les gardiens restent, mais nous, en tout cas, côté canadien, ils nous en demandent un petit peu plus. En tant que gardien de but, ils demandent d'être un peu plus impliqués durant le match, là, que de pas juste arrêter les rondelles, mais de les jouer, que quand la rondelle s'en va en arrière du but, c'est notre responsabilité d'aller la chercher. Souvent, les défenseurs nous font des passes pour leur faire des passes en retour. Il y a beaucoup plus que juste rester dans le cercle, puis arrêter un peu plus comme normal gardien de ligne nationale.
C'est comme un petit peu plus un hybride entre un gardien de but puis un défenseur. Est-ce que c'est exagéré de dire ça ou?
Ben, peut-être un petit peu. C'est sûr qu'à la base, notre tâche primaire, c'est vraiment garder les buts, arrêter les rondelles. Mais quand on est rendu à ce niveau-là, des fois, ce qui peut faire la différence, c'est ça, c'est des petits détails comme ça, là, de juste sortir du filet, aller en arrière, contrôler la rondelle, parce que comme les Américains font beaucoup de pression, aiment beaucoup envoyer la rondelle dans son territoire, puis nous mettent beaucoup de pression. De mon côté, jusqu'à d'arriver avant eux, leur faire une passe au défenseur, ben, ça nous permet juste de redécoller plus rapidement, puis d'éliminer cette pression-là.
Puis en tant qu'ancien attaquant, tu es bien placé pour apprécier un gardien de but qui peut faire une relance de l'attaque.
Effectivement, c'est toujours apprécié.
On a parlé des Américains, mais tu sais, le para-hockey, c'est un sport quand même qui se développe à l'international. J'en parlais dans mon introduction. Est-ce qu'il y a d'autres nations que toi, c'est pas, t'en es pas tes premières armes là, dans le sport, d'autres pays que tu vois que d'année en année, Colin, ils s'améliorent, puis peut-être qu'un jour, ils vont pouvoir aspirer à une médaille, là.
Il y a les Russes. Malheureusement, ils seront pas des Paralympiques cette année, dû aux tests en recul dans les dernières années, mais qui on a vu se développer depuis à Sochi, là, incroyablement. C'est un pays de hockey, alors on s'en attendait un peu. Et puis, c'est sûr qu'il y a toujours des nations comme la République tchèque, la Corée, en fait, la Corée du Sud, là, qui donne pas sa place également, qu'on pourrait facilement avoir sur le podium à Pyeongchang. Alors, la Norvège, qui est peut-être une équipe un peu plus vieille, mais que là, justement, ils ont changé plusieurs vétérans pour des plus jeunes. Alors, c'est un roulement comme ça. Des fois, ça prend quelques années à remonter la pente. Mais c'est ça. C'est des équipes qui ont des potentiels de surprendre, là, à Pyeongchang.
Parle-moi de tes coéquipiers un peu. Il y a quelques vétérans qui ont déjà vécu l'expérience paralympique qui vont venir, mais il y a aussi un vent de changement. Il y a plusieurs nouveaux joueurs. Donc, ça va être la première expérience à Pyeongchang.
Effectivement, on a plusieurs jeunes. Un donc, qui vient d'avoir 17 ans. première expérience pour lui. Les gens sont très excités. C'est ce qui nous motive, nous, en même temps. C'est ce qui nous donne un boost d'énergie de plus pour la préparation. Puis, toute l'équipe a très hâte d'arriver pour les Jeux.
Je veux pas dévoiler ton âge en ordre si tu veux pas, mais est-ce que tu es le doyen de l'équipe, Dominique?
Non, non, je suis pas, je suis pas, je non, je suis pas loyer encore. J'ai seulement 30 ans. Le plus vieux présentement a 37 ans. Ça, c'est notre doyen, mais on en a juste un. Là, moi, je te dirais que je suis dans la moyenne basse. Là, ça, c'est pas mal. Entre 25 à 30 ans, là, c'est pas mal la moyenne. C'est sûr, on a trois ou quatre jeunes dans le début vingtaine. puis la majorité du noyau là, se tient entre 25 à 30 ans.
On va pouvoir parler un petit peu plus de vos attentes et des autres équipes en force après notre petit pont musical, mais j'aimerais quand même que tu nous parles en ce moment de. Ben, tu es un ancien vétéran de guerre, tu as été à la guerre en Afghanistan et tu continues de travailler au sein des forces canadiennes. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton quotidien en dehors de la patinoire? Ça ressemble à quoi?
Oui, c'est sûr que dans la dernière année, le sport a pris pratiquement toute la place en vue des Jeux. Mais sinon, mis à part ça, là, quand je travaille au quotidien, en fait, j'ai employé comme travail de bureau graphiste au centre d'instruction à Valcartier. Et puis, je travaille en arrière d'un ordinateur au quotidien. J'ai la chance donc, de faire un peu d'entraînement durant le jour. Et puis, ça se résume pas mal à ça quand je suis pas sur la glace.
Le hockey occupe une grande place, on le sait. Puis, ta blessure, toi, est-ce qu'elle est survenue au combat ou à l'entraînement lors de ton implication militaire?
Elle est survenue au combat en Afghanistan en 2007. Le véhicule dans lequel j'étais a roulé sur un engin explosif improvisé, une mine artisanale. Et puis, j'ai dû être amputé en haut du genou gauche.
Est-ce que tu pratiquais déjà le hockey pour le plaisir avant ton accident?
Oui, j'ai joué extrêmement longtemps, pendant 11 ans au hockey quand j'étais plus jeune. J'ai pratiqué également du sport, le soccer, volleyball, football.
Puis là, ben, comme tu disais quand tu étais jeune, tu rêvais de devenir un gardien de but. Et là, dans quelques semaines, tu vas défendre les couleurs du Canada aux prochains Jeux paralympiques. On continue de discuter avec Dominique Larocque qui a accepté de passer l'émission avec nous dans un instant après ce petit pont musical. Restez là. De retour au signal, toujours Kevin Breton au micro. Et on a la chance de parler avec Dominique Larocque. On a parlé un petit peu plus de son parcours en préambule. Puis on a quand même glissé un mot sur les équipes et les forces en présence et des résultats de la médaille de bronze au dernier jeu paralympique. Dominique, vous entamez quand même le tournoi en tant que champion en titre. Est-ce que vous direz que vous êtes les favoris à l'entrée de ce tournoi?
Favori, je sais pas. C'est sûr qu'on est très bien vu la part des équipes quand on parle de hockey, on parle de Canada. On a une pression de plus là, de bien performer. C'est sûr que les Américains donnent pas leur place, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. La Corée du Sud qui vont jouer à la maison, qui vont avoir tout le sixième joueur sur la glace avec eux pour les encourager, qui pourraient surprendre. Alors, mais oui, les équipes, là, qu'on a gagné le dernier championnat du monde l'an passé à Pyeongchang, sur la glace, où est-ce qu'on va jouer dans les prochaines semaines, où ce que les hommes jouent présentement, en fait. C'est on est vu un peu comme les favoris.
Est-ce que, parce que vous avez joué un bon match à Charlottetown lors du défi mondial qui a lieu, je pense que c'était le 3 décembre, là, que le tournoi allait commencer, mais quand même, vous avez dû baisser pavillon face aux Américains. Qu'est-ce que les coachs vous disent que vous devez améliorer si jamais vous recroisez les Américains sur votre chemin pendant le parcours paralympique?
C'est sûr que le dernier tournoi, on n'était pas à notre meilleur. C'est des choses qui arrivent. Comme on a joué dernièrement contre les Américains, on les a battus 3-0. Un match à l'autre, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment une question de préparation. C'est vraiment une question d'être prêt à cette heure-là, à ce moment-là de la journée. C'est des choses qu'on peut pas nécessairement tout le temps contrôler, mais qu'on essaie de maximiser tous les petits détails qu'on est capable de contrôler. On essaie de les mettre de côté, entre autres, d'essayer d'avoir une routine et garder cette routine-là. C'est une des choses qu'ils nous demandent de faire. Puis, mais c'est ça, il y a tout le temps des détails qu'on contrôle pas. Entre autres, les arbitres sur la glace, que tu sais, des fois, ça peut jouer en notre faveur, des fois, ça joue contre nous. La patinoire également, la qualité de la glace. Mais sur papier, c'est techniquement parlant, on devrait sortir gagnant de ce match-là.
Ouais. De ce que je comprends, ces deux équipes dont la qualité, vous êtes vraiment nez à nez, les Américains et les Canadiens. À chaque fois que vous jouez l'un contre l'autre, ce sont des matchs serrés. Des fois, c'est des petits détails, comme tu le dis, qui font la différence. Ou des fois, c'est simplement que la puck roule pas de votre bord, comme ça arrive au hockey, comme on dit dans le jargon. Puis, ben, quand on parle d'équipes qui sont nez à nez, c'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec le hockey féminin. Je ne sais pas si tu as écouté le match pour la médaille d'or entre les Américaines et les Canadiennes.
C'est sûr que
Mais
j'ai écouté le match.
ouais. Puis qu'est-ce que tu en as pensé?
Très bon match d'effet de crève-cœur pour les Canadiens. J'en connais plusieurs sur l'équipe. Je sais l'effort qu'ils ont mis au cours des 4 dernières années pour se rendre là, puis qui ont tout donné ce qu'il y avait à donner. Perdre en tir de barrage comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à accepter. Mais c'est ça les jeux. C'est ça. C'est ce qui nous est arrivé un peu à Sochi en 2014. Des fois, sur papier, on est l'équipe qui devrait gagner. On est prêt à tout, mais soit la puck ne roule pas pour nous, ou un petit détail qui nous échappe et qui fait toute la différence. Comme les Américains au féminin, les Américains contre nous, c'est des équipes qui sont opportunistes, que quand on leur donne l'opportunité de marquer un but, ben généralement, ils la saisissent. Alors, il faut essayer de leur en donner le moins possible. Mais sinon, le match que les femmes ont joué était très bien, là.
En tant que spectateur, on peut peut-être se souhaiter une finale en fusillade parce que c'est extrêmement spectaculaire pour un partisan. Mais pour toi, est-ce que c'est le scénario que tu préfères ou tu préférerais gagner ça à la régulière?
Ah non, c'est pour un gardien de but, la filiale, c'est un peu un cauchemar. Ça serait la pire finale, malgré son gagne, mais non, si on est capable de terminer ça en régulière ou en overtime, ça serait à la limite moins pire. Mais c'est des choses qui seraient très probables que ça se termine en tir de barrage pour nous aussi. On va essayer que ça n'arrive pas. Mais si ça allait arriver, que ce soit moi dans les buts ou Corbin, mon coéquipier, les deux, on est quand même assez confiants de ce côté-là également.
Dernière question avant de se quitter, Dominique. En ce moment, à Montréal, il y a les meilleures joueuses de hockey sur luge, parce qu'on parlait des femmes là, au hockey régulier, mais il y a également au para-hockey que le sport se développe. Puis en ce moment, à l'Arena Hugh Morin à Montréal, il y a des pratiques du temps de glace qui est offerte aux femmes et aux filles du Québec pour faire développer le sport. Qu'est-ce que tu entrevois pour le développement du pendant féminin au para-hockey dans les prochaines années au Canada?
Pour l'instant, ça regarde très bien. Comme nous, quand j'ai commencé à jouer au hockey luge là, dans les années 2010, un peu avant Vancouver, le sport était plus méconnu. Le sport a vraiment explosé suite aux Jeux à Vancouver. Pour les hommes, les femmes, ça prend un petit peu plus de temps, mais présentement, ils font un très bon travail là, au niveau Canada, même, je pourrais dire, pour développer le sport du côté féminin. Puis on le voit avec
Ce genre d'événement-là.
cet événement-là qui est en train de se dérouler à Montréal. Ça fait que continuer. Puis c'est comme ça qu'on le fait grossir, là, en parlant puis en faisant des démonstrations comme ça.
Ouais, donc effectivement, il y a des démonstrations, comme tu le dis, du temps de pratique libre. Mais ce soir, si nos auditeurs veulent se rendre à l'Arena Hugh Morin, à 19 h, un match entre l'équipe nationale féminine et l'équipe de Montréal qui va avoir lieu. Dominique, merci d'avoir pris le temps dans ton horaire chargé de nous parler aujourd'hui. C'est bien apprécié.
Ça fait plaisir.
Puis on te souhaite une victoire à la réglementaire ou à la limite en prolongation lors des Jeux paralympiques. Puis ça va nous faire un grand plaisir de suivre toi et tes coéquipiers représenter le Canada.
Parfait, un gros merci.
Merci Dominique. Donc, j'ai l'horaire devant moi des matchs à lesquels Dominique va être à l'œuvre, mais également ses coéquipiers. Ça commence le 10 mars à 5 h contre la Suède, le 11 mars à 5 h contre l'Italie, le 12 à 1 h 30 contre la Norvège. C'est les matchs préparatifs ou les matchs en fait de sélection qui vont servir à déterminer l'ordre des finales. C'est pas toujours des heures agréables pour nous, les Québécois en Amérique du Nord, dans notre time zone pour apprécier les matchs, mais. Les meilleurs partisans vont certainement être capables de se lever café à la main pour encourager nos équipes. Donc ça, c'est pour le tournoi paralympique. Pour ce qui est de l'événement qui a lieu en ce moment du côté de l'Arena Hugh Morin dont je vous parlais, j'ai l'horaire complet. Ça a débuté mercredi. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'était la pratique de 9 h à 10 h 30. Ce soir, il y a un match. Il y a également un match demain de 14 h à 15 h 30, un samedi. Belle manière de passer l'après-midi avec le printemps qui arrive. Une petite marche jusqu'à l'Arena, ça te fait bien. Ce sera encore l'équipe nationale féminine contre l'équipe de Montréal. Et avant, si vous voulez essayer, de 9 h à 10 h 30, il y a du temps de glace ouvert qui est offert. Et ça se termine dimanche de 10 h à 11 h 30 avec une troisième partie. C'est dans le cadre d'un nouveau programme de mentorat offert par Women's Sledge Hockey of Canada que cet événement-là a lieu, aussi avec la participation des Québécoises de l'équipe. Si vous voulez vous inscrire, ben vous pouvez communiquer avec José Rochon, joserochon@commercial.gmail.com. Puis c'est qu'un entraînement-là à Montréal, ce qui est intéressant, c'est qu'il va servir de préparation aux joueuses de l'équipe nationale en vue de la Coupe du monde de para-hockey sur glace féminin qui va avoir lieu du 1er au 6 mai à Ostrava, en République tchèque. C'est vraiment bien de voir le sport se développer ainsi. On termine cette belle émission avec des nouvelles. En bref, il n'y a pas que du hockey qui va être à l'honneur à Pyeongchang. Il va également avoir du snowboard. Et je suis très content de vous annoncer que Sandrine Hamel, qu'on a reçue à l'émission ici un petit peu plus tôt, la jeune paraplanchiste, a été choisie par le Comité paralympique canadien pour représenter le Canada sur l'équipe de paraplanchistes en compagnie de Michelle Salt, Alex Macy, Andrew Gang, Colton Little, Kurt Minard et John Leslie. L'équipe du Canada présente des débutants aux Jeux paralympiques, sauf deux, avec Leslie et Salt qui ont participé au début paralympique du snowboard en 2014. C'est une discipline toute jeune, effectivement. Avec l'ajout d'une deuxième discipline de snowboard, qui est le slalom avec bordure, en 2018, les planchistes de l'équipe paralympique canadienne auront maintenant une autre occasion de montrer leur talent. L'équipe vient de connaître une des meilleures saisons de son histoire dans la Coupe du monde, qui a vu Kurt Minard terminer deuxième du classement général du globe de cristal de Parasnowboard Cross, et Salt, qui a terminé troisième du classement général du globe de cristal de slalom avec bordure. L'équipe a aussi complété la finale de la Coupe du monde avec style, se classant troisième du classement général des pays, ce qui est la première fois que le Canada monte sur le podium lors de cette coupe. Je suis incroyablement honoré d'avoir vu la progression de l'équipe canadienne en parasnowboard depuis ses débuts à Sochi en 2014, a dit Patrick Jarvis, le directeur exécutif de Snowboard Canada. Les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien de Snowboard Canada ont travaillé assidûment pour se préparer pour les Jeux paralympiques d'hiver et j'espère que tous les Canadiens se joindront à moi pour célébrer ce sport, cette équipe et spécialement ces planchistes et leur incroyable réalisation sur la scène mondiale. Pour la vaste majorité de l'équipe, cela sera leur première fois des Jeux paralympiques d'hiver. La délégation qui se rendra à Pyeongchang 2018 sera également la plus grosse de l'histoire du parasnowboard du Canada et l'équipe a faim de succès. De grosses félicitations à toutes les paraplanchistes dans l'équipe paralympique canadienne aujourd'hui, a dit Todd Nicholson, le chef de mission de l'équipe paralympique canadienne. Le snowboard est tellement un sport excitant qui continue de grandir et il est fantastique de voir le Canada envoyer une équipe complète de talentueux athlètes que nous serons fiers de voir concourir. Bonne chance à tous nos planchistes au jeu et nous les soutiendrons jusqu'au but, au bout. Les dates et la compétition pour le parasnowboard et le slalom avec les bordures les 12 et 16 mars à mettre à l'agenda. Les dates et les heures de diffusion seront bientôt dévoilées. Maintenant, on passe de la Corée à Montréal, plus près d'ici. Il y a le 35e défi sportif va bientôt avoir lieu. Et pour son 35e anniversaire, bien le défi sportif Altergo organise un relais de la flamme. D'ici l'ouverture officielle du défi sportif, plusieurs activités seront tenues. Les écoles et les centres de réadaptation qui participeront au prochain défi sportif sont invités à participer au relais de la flamme. Comment? D'abord en créant avec leurs jeunes athlètes leur propre flamme et en désignant un porteur qui participera à la cérémonie d'ouverture du 23 avril. À la fin de l'événement, un prix sera remis à la flamme la plus originale. De plus, de la fabrication de la flamme à l'entraînement des jeunes athlètes, les écoles et les centres de réadaptation sont invités à prendre des autoportraits. Il suffit de les transmettre à l'adresse communication au pluriel à commercialaltergo.ca et il nous fera un grand plaisir de les publier sur notre page Facebook. C'est un communiqué officiel du défi sportif. Les activités. sais, du défi sportif à suivre, ben il y en a plusieurs. Je ne vous les nommerai pas toutes, mais le samedi 17 mars, l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud à Montréal organise une initiation hockey-luge au volleyball assis et au basketball. Également, et le samedi 24 mars, au Centre sportif Marc Simoneau, aura lieu le Challenge hivernal de Hockey Québec, le Challenge hivernal de Québec, qui mettra à l'œuvre de l'initiation au boccia, au mini curling et au volleyball assis. Le samedi 31 mars, au complexe sportif Marie-Victorin à Montréal, il y aura l'initiation au volleyball assis et au basketball. Également une pratique de power chair soccer. Puis le lundi 23 avril, ben comme je le disais, c'est l'arrivée de la flamme qui va marquer l'ouverture officielle du 35e défi sportif. Et je termine l'émission avec un communiqué de Parasport Québec. Lors du dernier tournoi de la saison en basketball en fauteuil roulant dans la catégorie mini, les mini Bulldogs ont subi leur première défaite d'une marque de 21 à 18 aux mains des mini Aigles et terminant donc deuxième au classement à un point derrière les Vikings. Ceux-ci ont remporté leurs deux duels samedi dernier dans le gymnase du Cégep de Victoriaville. La formation des mini Aigles est au troisième rang du classement, elle qui a fait deux victoires et une défaite lors de ce tournoi. Les mini Vikings 2 ont signé une fiche d'une victoire et deux défaites, les classant ainsi 4 après n'avoir savouré la victoire qu'à une seule occasion, les mini-tornades, eux, terminent bon dernier. Pour connaître les résultats complets du dernier tournoi, vous pouvez vous rendre sur Parasport Québec. Toutes les informations se trouvent sur le site internet. C'est déjà la fin de l'émission aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai bien hâte. On va s'entretenir avec Lynn Joly, qui est une cavalière bien connue dans le milieu équestre, particulièrement en Estrie où elle habite maintenant. Il y a un petit peu plus d'un an, elle a subi une grave blessure alors qu'elle est tombée sur la tête en bas de son cheval. Et bien là, maintenant, elle est paralysée des jambes, mais elle a un rêve en tête de retourner aux Jeux paralympiques en 2020. Donc, elle va nous parler de tout ça, du retour sur le terrain après une grave blessure. J'ai bien hâte de vous présenter tout ça et bien plus. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde, et à Christiane Campagna qui s'occupe toujours habilement des médias sociaux pour l'émission. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, gardez le sourire.